Chapitre 18. Roman se réveilla, le corps tout habillé de Jay lové contre lui comme un chat. Il avait l'impression d'avoir un coussin chauffant collé à la chemise. C'était un lit double, mais il était court, et Roman devait plier les jambes pour tenir dans la longueur. Finalement, ils avaient tous passé la nuit dans l'appartement de Jay, près de Millicent Avenue, au niveau du pont qui permettait de se rendre dans le comté de Warren. Dante dormait sur le canapé. Par chance, il ne ronflait pas trop fort. Jay se tourna vers Roman et s'appuya contre son torse. Quelques heures plus tôt, Roman avait attendu que l'ambulance vienne récupérer le vieil homme qui s'était écroulé sur le trottoir. Vu son état, il avait été conduit directement à l'hôpital Senior Regional pour envoyer un texto à Khalil. « Ton gâteau était très réussi », avait écrit Roman. « On devrait en refaire un », avait répondu Khalil. Après la fusillade, mais avant l'arrivée de la police, Torrent avait remercié Roman à contre-cœur. Tranquil, lui, s'était tenu à l'écart de cette conversation. « T'as de bons réflexes », l'avait complimenté Torrent. « Mais pourquoi t'as fait ça ? Si je devais autant d'argent que toi, j'empêcherais pas mon créancier de se faire dessouder. » Il avait désigné les impacts dans la porte du Kingdom et avait ajouté « Ces balles auraient pu résoudre tous tes problèmes. » « J'essayais pas de te protéger », avait répliqué Roman. « J'ai entendu la voiture arriver et quand j'ai vu le flingue qui dépassait de la vitre, j'ai attrapé les personnes qui étaient à ma portée. Il se trouve que c'était Jay et toi. Ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Effectivement, il aurait été dans mon intérêt et celui de ma famille que tu restes sur le carreau. Manque de bol pour moi, j'étais à côté de toi. » Torrent avait ricané. « On n'est vraiment pas pareil, toi et moi. » s'était esclaffé le gangster. « Moi, si les balles se mettent à pleuvoir, je pense d'abord à ma gueule. » « T'as raison, on n'est pas pareil. » Roman avait lu un ouvrage sur les différences entre les sociopathes et les gens normaux. Et il en avait retenu que les sociopathes n'avaient aucune difficulté à mentir, parce qu'ils n'avaient pas les mêmes réponses émotionnelles que les non-sociopathes. En d'autres termes, ils ne ressentaient pas la culpabilité. Dans une digression, le livre expliquait que, pour un non-sociopathe, le meilleur moyen de mentir en restant crédible était d'y inclure autant de détails véridiques que possible, et ce afin d'atténuer artificiellement le sentiment de culpabilité. Roman avait donc servi à Torrent sa propre version de la vérité. S'il s'était agi d'une authentique fusillade et non d'une mise en scène orchestrée par Khalil, et que Torrent et Tranquil avaient chacun écopé de quelques balles dans la tête, cela aurait résolu une grande partie des problèmes de Roman. Mais, comme l'avait fait remarquer Khalil, sa dette aurait simplement été transférée aux membres restants des BBB. Si tu veux vraiment régler cette histoire définitivement, il faut que tu les élimines tous, avait dit Khalil. C'est pas facile, mais pas impossible. Rien n'est impossible, avait répliqué Roman. C'est juste une question de volonté. La fausse fusillade avait rempli son rôle. Désormais, même s'il refusait de l'admettre, Torrent était redevable à Roman. Il était donc temps de passer à la deuxième étape du plan. D'une certaine manière, les sommes d'argent colossales que brassaient les Black Baron Boys représentaient un défi professionnel unique pour Roman, qui se doutait que les capacités de blanchiment du Trouts et du Kingdom étaient limitées. Les Gilchrist étaient dépensiers, bien sûr, mais pas autant que Roman l'avait d'abord cru. Ils possédaient de belles voitures, sans non plus tomber dans l'extravagance. Quant à leur maison, d'après les estimations de Khalil, elle n'avait pas grand-chose à envier à celle de leur père. Bref, de l'avis de Khalil, ils étaient assis sur une énorme quantité d'argent liquide, ce qui, pour un conseiller en patrimoine comme Roman, représentait un immense gâchis. Lui voulait récupérer tout ce cash et le transformer à la fois en investissement à long terme et en placement à rendement immédiat. Il voulait se servir de cet argent sale pour bâtir les fondations d'un chef-d'œuvre financier. Puis se servir de ce chef-d'œuvre pour orchestrer la chute des BBB. Mais ça, c'était les étapes 3 et 4. Les 2 500 $ qu'il avait glissés à Yellow Boy n'étaient que le début.
« Vous êtes toujours là ?»
observa Jay, le visage enfoui dans le torse de Roman.
Je pensais qu'en découvrant que je souffre du syndrome des jambes sans repos, vous vous seriez éclipsé, toi et ton frère.
Je me réveille tout juste. Je voulais pas que tu passes la nuit toute seule. C'est pour ça qu'on est venu, je te rappelle.
Je sais, et je vous en suis reconnaissante. Je vais pouvoir téléphoner à ma copine Trina pour lui dire que Dante et toi n'êtes pas des pervers et qu'elle n'a pas besoin de contacter la police.
On est des pervers, mais on le cache bien, plaisanta Roman. Jay s'adossa à la tête de lit.
Je le pense vraiment, insista-t-elle. Vous avez pas tenté de trucs bizarres.
La preuve, j'ai encore ma robe et mes sous-vêtements.
Et oui, j'ai envoyé un texto à Trina pour la prévenir que vous dormiez à la maison. La sécurité avant tout.
Elle se toucha la joue et poussa un long soupir.
Depuis le temps que j'habite ici, on pourrait croire que j'ai l'habitude des fusillades, mais c'est la première fois que je voyais pleuvoir les balles autour de moi. Je voulais pas être toute seule hier soir, mais j'étais pas non plus d'humeur coquine. Dante et toi, vous vous êtes comportés comme des gentlemen, et je vous en remercie.
Elle s'étendit à nouveau, en prenant soin de coller son dos à Roman. Il aimait la sentir près de lui.
Et sinon, vous avez des obligations aujourd'hui ? Demanda-t-elle.
C'est dimanche. Vous allez peut-être à la messe ?
Depuis la disparition de notre père n'a jamais remis les pieds à l'église.
Et nous non plus. Ça ne me manque pas.
Moi, j'essaie d'aller à l'église Gethsemane Baptiste au moins 2 fois par mois. D'ailleurs, je devrais peut-être brûler un cierge, vu que personne n'a été touché hier soir.
Elle bâilla et se colla encore plus à Roman. Personne n'a été touché, mais il y a quand même eu une victime, se dit Roman. La première chose qu'il avait faite en arrivant dans l'appartement de Jay avait été de passer par la salle de bain pour se laver le visage. Il n'avait pas reçu de sang dans les yeux ni dans la bouche lorsque Russell s'était mis à convulser, mais dans le miroir, il avait constaté la présence de quelques gouttes séchées sur son front, qui faisaient penser à des marques tribales. Roman n'était pas naïf. Il avait conscience que s'attaquer au gang le plus violent de Jefferson Run ne serait pas sans conséquence, mais il aurait voulu demander à son reflet dans la glace s'il s'était préparé au risque de dommages collatéraux. Il savait déjà ce que lui aurait répondu son double. « C'est eux ou nous. Je ne tiens pas à ce que des innocents soient blessés, mais mon frère, ma sœur et mon père passent avant tout. Alors désolé pour Russell, les enjeux sont trop importants. »
Roman songea qu'une partie de son moi le plus profond serait révulsée par cette vision des choses.
Et pas que. Il était sincèrement horrifié de penser ainsi. Mais de manière pragmatique, il savait qu'il aurait tout le temps d'être horrifié plus tard, quand il ne resterait de Torrent, de Tranquil et des BBB qu'un graffiti à moitié effacé sur une bâtisse abandonnée. Getty, Splody, Russell, Yellow Boy. Il n'était que du combustible pour les flammes. Si Roman les considérait autrement, il risquait de devenir fou.
Vous pouvez traîner ici si vous voulez. Mais moi, je vais redormir quelques heures, annonça Jay. J'ai une énorme journée qui m'attend demain. On a une visite des gars de l'État.
Quel gars de l'État ? Demanda Roman.
Le lieutenant-gouverneur et une délégation du ministère du Logement. Le maire et plusieurs gros promoteurs immobiliers espèrent obtenir des subventions pour redynamiser le Skids. Ils ont l'intention de faire comme à Richmond. Des appartements de standing, des restos branchés, des commerces un peu hipsters. Tu vois l'idée ?
Le conseiller financier en Roman s'éveilla, en entendant les mots promoteurs immobiliers. La plupart des gens considéraient l'immobilier comme un investissement pérenne, et ils avaient raison. Mais les projets de construction promus par l'État et qui n'étaient pas encadrés par le département des transports de Virginie étaient de véritables mines d'or. Les opportunistes qui obtenaient le contrat de construction ou le contrat d'approvisionnement avaient toutes les chances de devenir des picsous nageant dans des piscines de billets. Sans parler de l'éventail de magouilles comptables qu'une telle opportunité ouvrait. Les pots de vin, les détournements d'argent, les estimations largement exagérées, les budgets gonflés. Quant à celui qui avait vent du futur emplacement du projet, il n'avait qu'à acheter les bâtisses abandonnées pour une bouchée de pain avant de les revendre à prix d'or.
« Et où est-ce qu'ils veulent construire ?»
demanda innocemment Roman.
« Près de l'ancienne manufacture de Boco Mason et de l'usine de plaquettes de frein désaffectées, dans le quartier de Greenhaven, »
répondit Jay d'une voix embrumée par le sommeil.
« Je sais pas précisément ce qu'ils ont prévu, mais ça doit être un gros truc parce que tout le service doit être présent, même les gens les plus insignifiants.
Et qu'est-ce qui se passe si le maire est battu aux prochaines élections? Est-ce que tu te retrouves automatiquement au chômage?
Pas automatiquement, mais oui, il y a des risques que je sois viré. Le nouveau maire voudra sûrement composer sa propre équipe. Après, si j'en crois les filles avec qui je bosse, Grévely n'a pas perdu une élection depuis 2008. Il est indéboulonnable.
Et tes frères s'intéressent à la politique, alors?
Tu vois le Trout? Le restaurant dans la vieille ville.
C'est à eux.
Ils ont un type qui s'occupe de tout.
Mais c'est eux les proprios. Et ils ont donné pas mal d'argent au maire pour sa campagne.
Il me semble qu'ils se sont rencontrés par le biais de la chambre de commerce. En tout cas, c'est comme ça qu'ils ont su qu'il y avait un poste pour moi. Ils connaissent bien le maire. Mais j'imagine que lui aussi les connaît bien.
Comment ça? Demanda Roman. Il ne voulait pas la presser ni avoir l'air de s'intéresser de trop près à Torrent et Tranquille. Surtout qu'il appréciait beaucoup Jay. Il avait envie de la revoir. Mais il était évident qu'elle avait une compréhension plus intime des BBB. Et toute information était bonne à prendre. Jay se retourna et se mit à lui caresser la joue.
Je me doute qu'ils ont essayé de t'intimider hier soir. Et je sais que t'as vu Tracy vider un chargeur entier sur la voiture qui nous a canardés. T'es pas bête. Si tu l'étais, je t'aurais jamais ouvert la porte de chez moi. Terrence et Tracy sont mes frères, et je les aime. Mais ils trempent dans des trucs dont il vaut mieux pas se mêler. Je suis contente qu'ils aient pas réussi à te faire peur. Mais j'ai vraiment besoin de me reposer.
D'accord, dit Roman. Il se cala plus confortablement contre son oreiller, et quelques secondes plus tard, il sentit contre lui le corps de Jay s'immobiliser. La poitrine de la jeune femme se soulevait de manière régulière, et Roman comprit qu'elle s'était assoupie. Il aurait aimé dormir lui aussi, mais les pensées et les images qui tourbillonnaient dans sa tête lui donnaient la chair de poule. Les BBB étaient en lien avec le maire. Un énorme projet immobilier allait voir le jour du côté du Skids, et un tsunami de billets était sur le point de déferler sur Jefferson Run. Assez d'argent pour acheter la loyauté de tous les pions de l'échiquier, songea Roman. Dans son sommeil, Jay lui passa un bras autour de la taille. Vers midi, alors que Dante venait de franchir la porte de l'appartement, Roman et Jay échangèrent numéros de téléphone et pseudos de réseaux sociaux, les deux prérequis fondamentaux du flirt moderne.
« Est-ce qu'il y en a une qui est ta femme ou ta petite amie ?» demanda Jay, qui faisait défiler les photos de Roman prises lors d'événements bien réels en compagnie de personnes bien réelles.
« Je constate que ton prénom n'est pas usurpé, » railla Roman.
« C'est pas une réponse, » insista Jay, toujours étendu sur le lit.
Roman s'avança vers elle et se pencha pour l'embrasser.
« Non, » dit-il, « je n'ai ni femme ni petite amie. »
« Miss Delicate ne compte pas, » songea-t-il.
« Très bien, mais si tu m'as menti, je vais devoir te sacrifier au légendaire homme papillon, » prévint Jay.
Heureusement pour moi que les papillons n'ont pas de dents, rétorqua Roman avec un clin d'œil, avant de quitter à son tour l'appartement. Dante l'attendait à côté de la voiture. Lorsque Roman déverrouilla les portières, Dante lui passa devant pour s'installer au volant.
Ça va ? Demanda Roman, surpris.
Monte, se contenta de répondre Dante.
Roman s'exécuta et ils partirent.
C'était toi et Khalil, pas vrai ? Fit Dante. Tu voulais que je te voie sauver la vie de Torrent. Grâce à l'intervention de l'intrépide Roman Carruthers, le grand méchant Torrent Gilchrist n'a pas terminé criblé de balles.
Quelque chose comme ça, oui.
Mais vous êtes des malades. T'imagines si quelqu'un avait été touché? Et Russell, le pauvre petit vieux a eu tellement peur qu'il a fini à l'hosto.
Arrête-toi, ordonna Roman.
Pourquoi faire? Pour que tu me réexpliques en long, en large et en travers que tout ça c'est ma faute ?
Arrête-toi, répéta Roman. Dante se gara sur le parking de Church's Chicken et avec une grimace, il colla sa tête à la vitre. Roman se tourna vers lui. Khalil a ouvert le feu en tenant son pistolet mitrailleur à une main et le volant de l'autre. Contrairement à toi, il sait ce qu'il fait, lui.
Alors c'est la dernière fois que je te le dis parce que je n'ai plus l'énergie ni la patience. C'est ta connerie qu'on essaie de réparer, Dante. Donc si tu veux remettre en question mes choix, tu me proposes des solutions alternatives. Sinon, tu la fermes.
Roman avait ponctué chaque phrase d'un coup d'index sur le tableau de bord.
« Allez, on rentre »,
conclut-il, en se radossant à son siège.
Dante redémarra et le reste du trajet se fit dans un silence, chargé de reproches et de regrets, selon le point de vue duquel on se plaçait.
Lorsqu'ils arrivèrent en vue de la maison, Roman remarqua que le pick-up de Nevea n'était pas là, mais qu'une Chevrolet Malibu bleue était stationnée dans l'allée. Dante se gara à côté.
« C'est une voiture de flic », annonça Dante en coupant le contact.
« Comment tu le sais ?»«
Toutes leurs plaques d'immatriculation commencent par JR. Niveau discrétion, on fait mieux. »
Comme pour confirmer les dires de Dante, Chauncey descendit de la Malibu, imité côté passager par un policier blanc. Et tous deux allèrent se poster au niveau du coffre pour les accueillir.
« Ne stresse pas », dit Roman.
Ils descendirent à leur tour et se plantèrent à quelques mètres des policiers. Chauncey exhiba ses dents, un geste trop carnassier pour qu'on puisse parler de sourire.
« Comment allez-vous, messieurs ?» demanda Chauncey avant de se tourner vers Roman.
« Nous, on se connaît. Mais je n'ai pas eu le plaisir de rencontrer votre frère.
Je suis Chauncey Mansfield et voici mon collègue, Joseph Neary, »
ajouta-t-il à l'attention de Dante. Il tendit la main vers Dante, qui se contenta de la regarder sans la saisir.
« Bon, la dernière fois, c'était une visite de courtoisie. » reprit Chauncey. Aujourd'hui, c'est une visite officielle. Nous sommes toujours à la recherche de Monsieur Getty. Mais nous avons appris que c'est désormais sa petite amie qui est introuvable, une certaine Cassidy Gutiérrez.
Sa mère est morte d'inquiétude.
Dante, je sais que vous étiez proche de Monsieur Getty. Est-ce que, par hasard, il vous aurait confié qu'il travaillait pour nous en tant qu'indicateur ?
À la tessiture particulièrement grave qu'avait prise Chauncey pour révéler que Getty était une balance, Roman devina que l'inspecteur espérait faire peur à Dante et le poussait à dire quelque chose d'incriminant. Quant au fait que les policiers ne cherchaient même pas à dissimuler l'identité d'un indicateur, cela confirmait qu'il partait du principe que Getty était mort et que, a priori, il ne risquait plus rien.
« Il m'a jamais parlé de ça ?» répondit Dante.
« Hier soir, vous étiez tous les deux à une fête organisée par les Black Baron Boys, » déclara Neary. « Une fête qui a été le théâtre d'une fusillade à approximativement 4h15. Nos collègues dépêchés sur place ont recueilli plusieurs témoignages, dont les vôtres.
« Vous voyez, » reprit Chauncey en pointant Dante du doigt, « je trouve la disparition de Monsieur Getty étrange.
C'était votre ami, non ?»
Puis, désignant Roman,
« Et vous ?» Vous venez d'arriver en ville, mais comme par hasard, vous vous retrouvez invité avec votre frère à une soirée organisée par le gang de sociopathes le plus puissant et le plus dangereux de la région. Un gang avec qui travaillait M. Getty, soit dit en passant, et sur lequel il nous a appris beaucoup de choses au cours des 6 derniers mois.
Roman soutint son regard.
Je pense que de vous deux, c'est vous le plus malin, Roman. Dites-nous ce que vous savez. Est-ce que les BBB ont liquidé Getty ? Est-ce qu'ils vous ont forcé à faire disparaître le corps ? Nous pouvons vous aider si vous êtes la cible d'un chantage. Parce que je ne suis pas sûr que vous vous rendiez compte d'à qui vous avez affaire. Les Black Baron Boys sont dirigés par Terence Gilchrist et son frère Tracy, plus connus sous leur pseudonyme de Torrent et Tranquil. Ce sont les fils de Horace Gilchrist, un ancien associé de Luther Barnes, de Silk Perry et du fondateur des BBB, qui purge actuellement une peine de perpétuité à la prison de Coldwater. Les BBB contrôlent le trafic de drogue à Jefferson Run, cocaïne surtout, mais aussi ecstasy et héroïne. Mais ça ne s'arrête pas là. Ils revendent également des armes à des malfrats new-yorkais. Et ils sont à la tête d'un réseau de prostitution qui opère depuis le Kingdom, le Candies, et de nombreux relais routiers entre ici et le Maryland. Et ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Ce qu'on sait. Torrent et Tranquil sont soupçonnés d'avoir des liens avec au moins 10 de meurtres. Alors, jouons carte sur table, d'accord? Ce monde-là, ce n'est pas le vôtre. Donc soit vous nous dites ce que vous savez sur Getty et on vous protège, soit je vous garantis que Torrent et Tranquil vous liquideront quand ils en auront fini avec vous. Est-ce qu'on est en état d'arrestation ? Demanda Roman.
Chauncey se tourna vers son collègue. L'irritation pouvait se lire sur leur visage.
N'essayez pas de jouer au plus malin avec nous, gronda Niri. On est plus doué que vous et on n'a pas peur de tricher.
Je ne joue pas au plus malin, répliqua Roman, mais la nuit a été longue et on est tous les deux très fatigués.
Oui, on était à cette soirée, tout comme plusieurs centaines de personnes qui connaissaient probablement aussi Getty. Tout le monde connaît tout le monde à Jefferson Run. C'est une petite ville.
Et on a déjà parlé à vos collègues il y a quelques heures, donc à moins que vous ne vouliez dire bonjour à ma sœur, on va vous souhaiter une bonne journée et aller se coucher. »
Lorsqu'il mentionna Nevea, Roman aurait juré avoir vu frémir l'œil gauche de Chauncey.
« Peut-être qu'on devrait les embarquer ?» suggéra Niri.
« Vous pouvez, mais on vous répétera exactement la même chose. Et si malgré tout vous insistez, on appellera notre avocat. »
« Comme je vous disais, je suis exténué. Alors peut-être que vous devriez plutôt nous laisser dormir et enquêter sur la tentative de meurtre dont ont été victimes Torrent et Tranquil hier soir. »
Chauncey s'approcha de Roman et se pencha vers lui jusqu'à ce que leur nez ne soit plus qu'à 1 centimètre l'un de l'autre.
« Quand Torrent lâchera son psychopathe de frangin sur vous, vous regretterez de ne pas avoir accepté mon aide, » dit-il.
C'est pas la peine de repasser si vous avez pas de mandat d'arrêt, répliqua Roman, pas impressionné pour un sou.
Ma sœur tolère peut-être votre indélicatesse, mais ce n'est pas mon cas.
Ne vous en faites pas. Quand je reviendrai, ce sera avec un mandat et une paire de menottes particulièrement serrées.
Si tu crois que des menottes me font peur, songea Roman.
Messieurs, je vous souhaite une bonne journée, dit Roman.
« Allez, viens, Dante, on rentre. »
Lorsque sa tête se posa sur l'oreiller, il se demanda pourquoi il n'avait ressenti aucune inquiétude en parlant à Chauncey et son collègue. Était-il trop fatigué pour être stressé? Ou avait-il agi à l'instinct, à la manière d'un animal?
D'un dragon.